l'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Chers auditeurs, bienvenue dans Mismatch, l'émission dédiée à l'accessibilité des jeux vidéo. Elle est destinée aux professionnels, aux néophytes du média, mais aussi aux joueurs et joueuses. Je suis Damien Fargevaux, game designer de formation, consultant en accessibilité de jeux vidéo, président de l'association Dear Valid People. Chaque semaine, nous mettrons en lumière, ensemble, chaque pièce du puzzle formant ce jeune domaine qu'est l'accessibilité de jeux vidéo. Étant moi-même handicapé, ma formation mêlée à mon expérience de vie m'a amené à me spécialiser sur le sujet. Dans le précédent épisode, j'ai pu parler du deuxième pilier de l'accessibilité, le design. Il est une responsabilité éthique des développeurs, prenant en compte l'accessibilité dès la conception. Il est un sujet vaste et nouveau dont sa communauté a établi quatre familles pour le rendre plus digeste. L'accessibilité motrice, l'accessibilité visuelle, l'accessibilité auditive et l'accessibilité cognitive. Comment se servir de cette classification ? Correspond-elle à une réalité de terrain dans l'interaction avec le jeu vidéo par les personnes handicapées? Tout un programme pour ce nouvel épisode de Mismatch. Ces quatre familles s'inspirent de celles existantes dans le monde actuel du handicap. Motrice, sensorielle, psychique, mentale, cognitive, invalidante. Pour autant, cette catégorisation n'est pas exempte de défauts et ne représente pas la richesse et la complexité du handicap. D'un point de vue de l'accessibilité, comme dit lors du précédent épisode, elle existe pour rendre le sujet plus abordable. Il faut atteindre un seuil de connaissance avant de comprendre qu'il s'agit d'un spectre dont les frontières sont bien moins distinctes que ce que l'on croit. Il y a aussi un prisme de compréhension de ces décalages avec les obstacles prévus dans un jeu vidéo. Rappelez-vous de la définition de l'inaccessibilité vue dans l'épisode pilote. Chacune aura droit à son émission particulière avec son lot d'exemples concrets ainsi que des solutions qui ont été trouvées. Mais il est de bon ton d'en fournir une description générale dès maintenant. L'accessibilité motrice. Nous l'avons entamé dans l'épisode précédent par le biais de la prise en compte de matériel adapté. En ce qui concerne le design pur, il y a des types d'interactions impossibles ou bloquantes pour un joueur. Viser le joystick, appuyer rapidement sur un bouton, appuyer sur plusieurs touches en même temps. Les questions porteront principalement sur les réflexes, la précision, la fatigue demandée aux joueurs. L'accessibilité visuelle. Le jeu vidéo est composé en majorité d'éléments visuels. À l'inverse de ce qu'on pourrait croire, les personnes invoyantes ou aveugles jouent au jeu vidéo. Ce stéréotype provient d'une incompréhension du handicap visuel ainsi que de la systématisation de l'utilisation de l'œil par le joueur, noyé dans une société de l'image. Pourtant, les personnes malvoyantes peuvent voir jusqu'à un certain degré, le plaisir vidéoludique peut être autre que visuel. L'accessibilité auditive. Le son est devenu un domaine important dans la création de jeux vidéo. Les dialogues, la musique, les effets sonores sont des parties intégrantes de l'expérience vidéoludique. Partie échappante aux joueurs malentendants et sourds, L'information critique communiquée par le son est considérée comme acquise pour les personnes entendantes. L'accessibilité cognitive. Il est un sujet très large, allant de la typographie des dialogues au déplacement dans l'espace 3D à l'utilisation de la mémoire. La complexité des projets actuels peut provoquer une entrave dans la perception de l'expérience vidéoludique par joueur. La mise en place d'alternatives est préconisée afin de prodiguer une expérience vidéoludique équitable, sans friction en fonction de chaque public. Chaque famille possède son lot d'alternatives qui seront détaillées dans les prochains épisodes. Et nous pourrons voir comment elles peuvent s'allier. Vous venez d'écouter un épisode de Mismatch, créé par un concerné pour des concernés.
L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.